Transcardinal Remède, bonjour.
Bonjour.
Semaine nationale des proches aidants. On aurait voulu être plus d'actualité, on n'y aurait pas réussi. Ça se passe du 6 au 12 novembre et on parle justement de cet impact qui peut arriver dans la vie lorsque l'un de nos parents apprend un diagnostic de maladie grave et que l'on sait qu'on vivra probablement cet épisode de proche aidant. En fait, qu'on endossera ce nouveau rôle. La première question, peut-être, qui me vient en tête, qu'est-ce qu'on dit?
Je pense qu'il faut prendre un certain recul, hein, parce que l'expérience de la maladie se vit de façon très personnelle. Hein. Elle évolue dans des contextes de vie qui sont propres à chacun. Alors, quand cette nouvelle-là survient, c'est sûr que ça ébranle tout le monde. Hein. Cette annonce, ça peut donner l'impression de tomber dans le vide, d'être dans des montagnes russes, d'être soudainement... projeté hors de soi-même, et puis on a un peu d'espoir, mais on a beaucoup de peur quand ça survient.
Oui.
Beaucoup d'anxiété aussi, je dirais. Moi, je l'ai vécu personnellement avec des membres de ma famille, et c'est pas évident.
Et malgré toutes les... Parce que vous êtes infirmière de formation,
oui.
Vous avez évolué dans le milieu de la santé, milieu hospitalier pendant des années. Malgré tout ça, il y a quand même le vertige. Il y a des gens qui n'ont pas de connaissances médicales. Il y a aussi toute cette compréhension qu'on doit avoir, qu'on voudrait avoir subitement là, pour comprendre, pour le mieux encadrer, accompagner notre parent. Il faut se laisser le temps.
Oui, et c'est ce qu'on va aborder dans cette petite entrevue, là. En fait, on devient rapidement un proche aidant, hein, tout d'un coup, quand ça arrive. Parce que le proche aidant, c'est une personne qui supporte un être cher, hein, que ce soit un parent, un conjoint, un enfant même, ou un ami, une voisine.
Oui.
Alors... C'est ce qui survient. Alors, des petites conditions facilitantes, finalement, des conseils pour mieux gérer la situation. Mais moi, je suggérerais de prendre d'abord un temps d'arrêt, de reprendre son souffle, pour en apprendre davantage aussi sur soi-même. Parce qu'il faut être calme pour aider l'autre aussi, puis il faut reprendre un peu ses esprits, comme on pourrait le dire, de façon plus générale.
Oui, oui.
Alors, le constat de sa fragilité, mais surtout l'apprentissage de la compassion envers soi-même, envers l'autre, bien sûr, son proche qui est atteint d'une maladie, on dit que ça peut influencer positivement le déroulement futur des événements. Si on se braque, si on devient très anxieux, si on n'accepte pas du tout... ça va être beaucoup plus difficile de cheminer. C'est important d'aller avec la vague, même si la vague est haute.
Oui, et d'accepter qu'on ne la contrôle pas. On est habitué et on aime contrôler les événements qui surviennent dans notre vie, le travail, la famille. Ben, d'ailleurs, vous parlez d'organisation, que c'est un aspect qui est important lorsqu'on accompagne un proche qui est atteint d'une maladie grave.
Oui, tout à fait. Il faut absolument être très bien organisé.
Je trouve ça intéressant parce que c'est un outil qui est assez concret et j'imagine que ça peut nous donner un peu l'impression d'avoir un certain contrôle, même s'il n'est pas parfait, bien sûr, ce contrôle-là.
Oui, mais c'est vrai ce que vous dites. Parce qu'en fait, il y a de multiples aspects reliés à cette annonce-là. Il faut programmer des visites à l'hôpital, ou au domicile. Hein. Il peut y avoir des personnes qui viennent visiter à domicile, tout dépendant de la condition de la personne. Alors, il faut se coordonner, dresser des listes de démarches à effectuer, prendre du temps pour planifier son propre horaire pour pouvoir bien insérer les nouvelles actions ou activités qui surviennent. Ensuite, ce qui est important, puis que les gens ne réalisent pas toujours, c'est d'en parler avec l'entourage et de partager les tâches avec l'entourage. C'est important. Des fois, on n'ose pas... On se dit, oh non, je ne suis pas pour le déranger, tout ça. Mais c'est important de ne pas tout porter une personne sur son dos, toute cette charge nouvelle. Alors, puis je pense que les gens, souvent, veulent aider, d'ailleurs. Ils vont offrir de l'aide, puis on dit, oh oui, puis on ne le fait pas. Mais je pense qu'il faut saisir l'occasion et le faire. Un autre élément qui est très important aussi, c'est de bien s'informer.
Ouais.
Alors, nous, on suggère que la personne soit accompagnée lorsqu'elle va à ses rendez-vous, même si c'est un adulte d'une cinquantaine d'années qui est autonome, parce que une présence, c'est très réconfortant, mais en plus, c'est important d'enregistrer mentalement sur papier tout ce qui est expliqué, parce que la personne qui est atteinte, elle va oublier nécessairement des éléments. C'est normal, parce que c'est elle là, qui est touchée par l'événement. Puis pas hésiter non plus à poser des questions pour comprendre ce qui se passe puis comment va évoluer la situation. Est-ce qu'il va y avoir des investigations, des tests à passer? Après, qu'est-ce qui va arriver? Dans ce type de diagnostic, comment ça évolue normalement pour ce groupe d'âge-là? Bon, etc. Alors, c'est bien important. Puis aussi, accompagner la personne, mais lui faciliter la prise de décision. Ouais. Elle doit prendre des décisions éclairées. Alors, c'est, je pense que la personne qui s'occupe d'un proche peut aider à cette
On n'hésite pas à prendre des notes. On peut se permettre de prendre des notes, de poser des questions, vous l'avez mentionné, mais pour garder en tête, parce que nous aussi, il y a cette espèce d'anxiété-là de manquer une information ou de ne pas la saisir sur le coup, de penser qu'on a compris, oui. puis après de retour à la maison, oui. non, j'ai pas saisi ça.
Oui, puis ne pas hésiter à rappeler le centre de santé, parler à quelqu'un. Quand il s'agit d'un diagnostic de cancer, par exemple, souvent il y a des infirmières pivots, elles nous donnent leur carte, elles nous invitent à communiquer avec eux, alors ne pas hésiter à le faire. C'est très important. Parce ouais. que si on ne comprend pas ce qui se passe, si on a des zones d'ombre grises là, qui ne sont pas claires, bien, ça ne va pas bien aller. Il faut vraiment comprendre tout ce qui se passe. Maintenant, il y a un autre élément que j'aimerais aborder, c'est la gestion des émotions avec l'autre personne. On a nos émotions, mais l'autre personne a ses émotions. Alors, on dit qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon à réagir hein, quand une nouvelle nous inquiète. Alors, tout simplement, demeurer calme, être présent, puis laisser la personne réagir à sa façon. Lui offrir son écoute, la rassurer qu'on sera à ses côtés, qu'on empruntera cette nouvelle route ensemble. Ça, mm-hmm. c'est tellement important, de l'accueillir dans ce qu'elle vit. Et pour nous, bien, peut-être essayer de se dire qu'on devrait envisager la vie avec des lunettes qui ne voient que le positif, le mieux possible. Hein? Souvent, des gens vont avoir leur verre à moitié plein, d'autres à moitié vide. Mais peut-être essayer de se dire, je vais avoir mon verre à moitié plein, puis on va miser sur tout ce qui est positif. S'inspirer aussi d'autres personnes qui ont vécu une situation comparable. Oui. Il y a des lectures qu'on peut faire, entre autres, ou on peut connaître quelqu'un qui est passé à travers un moment difficile, puis aller le consulter. Prendre soin de soi, aller chercher du confort émotionnel auprès d'amis, de personnes proches, puis au besoin, si ça va vraiment pas, aller consulter un psychologue, c'est correct.
Oui, vous parlez même de groupes de soutien, ça existe aussi, pour des proches aidants?
Aussi, des groupes de soutien, oui, ça existe, absolument. D'ailleurs, j'ai des ressources que je pourrais peut-être glisser à cette étape-ci. Il y a Aidants en réseau. Alors, si on va sur le web, on va le trouver, mais il y a aussi le réseau Entre aidants. Alors, l'adresse est www.réseau-entre-aidants.com. Et il y a aussi les petits frères des pauvres qui offrent des ressources d'accompagnement des personnes gravement malades ou en fin de vie. C'est bon à connaître des personnes très seules qui n'ont pas trop de moyens. Alors, eux aussi peuvent soutenir. Et dans le cadre de la semaine des proches aidants, il y a un organisme, l'appui pour les proches aidants d'aînés. Alors, www.lappui.org. Alors, eux vont souligner la semaine des proches aidants et vont offrir une multitude d'activités. Alors, c'est intéressant d'aller voir là, ce qu'ils vont offrir dans toutes les régions oui. du Québec. Hein.
Et célébrer l'apport des proches aidants à notre société. En terminant, France, il y a bien sûr la personne que l'on doit aider qui est malade, qui vit un épisode difficile, mais aussi le proche aidant qui peut se fragiliser. Son état de santé peut également se détériorer. Il faut être à l'affût. On peut être le proche aidant d'un proche aidant aussi.
Oui, oui.
On reste alerte à quoi?
Alors, la personne va se sentir de plus en plus fatiguée. Ce sont des signes, hein, finalement. Elle va se sentir débordée, dépassée. Elle peut être irritable, impatiente, sensible pour un rien. Elle peut expérimenter des troubles de sommeil, éprouver de l'inquiétude, de l'angoisse, et son appétit peut diminuer. Alors, ce sont des signes là, d'épuisement d'un proche aidant. À ce moment-là, très important d'aller chercher des ressources. Il existe, on peut communiquer avec le CLSC de son quartier, faire un rendez-vous avec un professionnel de la santé, entre autres. Là. Et il y a des endroits où la convalescence, ça peut être une convalescence d'une fin de semaine, de quelques jours, qui est possible. Alors, ça peut aider. C'est pas coûteux du tout et ça peut aider à donner du répit à l'aidant.
J'imagine que l'aidant, d'exprimer cette fatigue-là ou l'anxiété à la personne qui l'aide, trouve ça délicat. Est-ce qu'on peut l'exprimer, dire « je suis fatiguée », est-ce qu'on oui. peut prendre une entente, oui. « j'ai besoin de répit ».
Oui, tout est dans la façon de le dire. Hein? Alors, il faut quand même laisser l'espoir à la personne, dire « écoute, moi, je t'aime, c'est pas ça, c'est juste que je suis fatiguée, j'aimerais ça prendre quelques jours de répit ». Oui, ça se dit. Oui, oui.
Et comme ça, l'autre personne est également au oui. courant, ne se sent pas abandonnée.
Oui. Non, puis je l'ai observé, il y a plusieurs personnes qui le font, hein, qui vont faire ça. Puis la personne, dans le fond, elle, ça lui fait un changement, la personne qui est
c'est
malade.
Vrai.
vit autre chose là, pendant quelques jours, parce qu'il y a une routine qui s'installe, qui peut être aussi épuisante pour la personne aidée. Oui. Des fois, ça fait du bien aux deux.
Oui. Oui. Et on revient toujours à ce livre, votre livre publié aux éditions Multimonde, printemps dernier, France.
En février.
En février, l'hiver dernier, ça va vite.
Ça va vite.
Oui.
Hein?
Quand la vie se fragilise, un guide pour vous et vos proches aidants. On y revient parce qu'il y a plein de ressources. Mm-hmm. C'est un témoignage aussi à la fois de votre vécu. Mm-hmm. Et je le redis, c'est vraiment un très bel outil pour les gens qui vivent.
Je voudrais dire que je vais être au Salon du livre de Montréal.
Oui.
Les 18 et 19 novembre, alors il y aura des séances de signature. Alors, ça me fera plaisir d'accueillir des gens.
C'est un rendez-vous, France Cardinal-Remette. Merci beaucoup.
Merci.